Voilà, bonjour à chacun. Je vous invite à commencer par la prière. Notre Dieu, nous savons que si ce n'est pas toi qui parles, tout ce qui peut être dit ne sert à rien. Nous voulons te prier pour les moniteurs de l'école du dimanche, pour que tu leur donnes tes paroles, que tu puisses me les donner aussi et que ce soit ta parole, ton Saint-Esprit qui parle ce matin, qui nous fasse du bien, qui nous reprenne, qui nous édifie, qui nous fortifie. Prions pour les enfants qui vont recevoir ta parole. Tu vois combien il est important pour eux, dès leur plus jeune âge, de faire les bons choix. Prions pour leur salut et prions que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Donc aujourd'hui, c'est Shavuot, en hébreu, la fête de la Pentecôte, donc qui tire ses racines dans les fins fonds, devrais-je dire, de l'Ancien Testament. Donc on va aller examiner de plus près les racines de cette fête importante et en voir les conséquences et, on pourrait dire, les changements, mais ce ne sont pas réellement des changements, disons quand même quelques nouveautés apportées par le Nouveau Testament. J'aimerais qu'on relise ensemble dans Jérémie au chapitre 31 ce magnifique passage qui nous parle de cette nouvelle alliance et il s'agit de cela dans cette fête de Shavuot, la Pentecôte. Jérémie 31 au verset 31. Jérémie 31, 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Que c'est beau. J'espère que ça vous fait du bien de lire ce texte. Cette alliance nouvelle que Dieu a voulu conclure avec son peuple, où il est dit qu'on n'aura plus besoin de recevoir de l'enseignement, qu'il sera dans notre cœur. Dieu nous dit qu'il mettra sa loi dans notre cœur, qu'il pardonnera le péché, et même qu'il ne s'en souviendra plus. Alors Shavuot, la Pentecôte. C'est en réalité, d'abord, telle qu'elle est décrite dans le Pentateuque, une fête agricole. Mais aussi, comme on vient de le lire, une fête, j'irais de l'alliance. Il est question d'une alliance que Dieu fait avec son peuple. Et en troisième partie, on verra que c'est aussi une fête multiethnique. On l'a un petit peu vu ce matin dans ce passage d'Acte 2, puisque tous ces Juifs qui étaient à Jérusalem pour cette fête de Shavuot, eh bien, il venait de toutes les nations environnantes et il parlait diverses langues. Donc, une fête multiethnique, puisqu'il y avait plein de cultures, plein de nations représentées à ce moment-là. Donc, premier point, une fête agricole. Alors, c'est vrai que dans notre ville de Ris-Orangis, bien urbanisée, peut-être ça ne nous parle pas trop. Et pourtant, à l'époque, c'était le cas. Il y avait trois grandes fêtes qu'on appelait des fêtes de pèlerinage. Premièrement, Pessah, la Pâque. Shavuot, donc la Pentecôte, et puis Soukhot, la fête des huttes et des cabanes. Cette fête de Pentecôte intervenait donc 7 semaines après la fête de Pâques. Et fête de pèlerinage, pourquoi ? Parce que bien toutes les personnes du peuple devaient se rendre à Jérusalem lors de ces trois fêtes. 7 semaines après Pâques, voilà pourquoi on l'a appelé Shavuot, puisque Shavuot en hébreu ça veut dire semaine, donc on entend parler de la fête des semaines. 7 semaines, si vous calculez 7 fois 7, 49 jours, Donc elle intervenait le 50e jour après Pâques. Et c'est pour ça que en grec, ça a donné Pentecôte, hein, on reconnaît Pinta, qui veut dire 5, donc 50, dans notre langue. Donc, fête des semaines, on entend aussi parler de fête des prémices et de fête de la moisson, parce que donc c'était une fête en premier lieu agricole. Dans Exode 34, verset 22, il est écrit « Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Donc, Pentecôte est décrite comme la fête des prémices de la moisson du blé. Alors à Pâques, c'était aussi une fête agricole parce que on offrait une gerbe. D'ailleurs, c'était au mois de Nissan, qui est qualifié de mois des épis. Donc c'était le tout début, la première gerbe qu'on pouvait récolter. À la Pentecôte, bien c'est la première coupe du blé qui commence, la moisson du blé qui commence. Donc une fête où on apportait finalement les prémices de ce qu'on allait récolter. Et c'est intéressant de voir ce que les Israélites devaient dire en apportant leur offrande à Jérusalem. Je vous invite à le prendre avec moi dans Deutéronome, chapitre 26, au verset 5. Deutéronome 26, verset 5. Donc voilà le commandement que Dieu donnait à son peuple lorsqu'il apportait son offrande. Deutéronome 26, verset 5. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens pour y séjourner. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et vit notre oppression, notre peine et notre misère. L'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par une grande terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a fait venir dans ce lieu, et il nous a donné ce pays, pays découlant de lait et de miel. Maintenant me voici. J'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'immigrant qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés, à toi et à ta maison. En gros, ce que chacun devait dire en apportant son offrande, c'était en gros son histoire. Et ce matin, peut-être, nous pouvons aussi réfléchir à notre histoire devant Dieu, qui est certainement assez semblable à celle de ce peuple. Ils se décrivaient comme étant d'un père nomade. Ils étaient peu de gens lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Et puis Dieu a fait d'une nation grande et puissante. Dieu qui établit. Dieu qui édifie. Dieu qui est celui qui affermit nos vies. L'histoire continue, il explique que les Égyptiens les maltraitèrent, les opprimèrent et les soumirent à une dure servitude. Ce qui nous rappelle aussi la servitude du péché. À l'état d'homme naturel, on est esclave du péché. On n'est pas libre de faire ce que nous voulons. Paul le résume très bien dans l'Épître aux Romains en disant que « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » La servitude du péché. La peine qui en résulte parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc on voit dans ce texte qu'il est question de misère, de peine, de servitude. Mais on voit au verset 8, « L'Éternel nous fit sortir d'Égypte. » La délivrance. La délivrance. Dieu est celui qui délivre et qui sauve. Et il l'a fait à l'époque à bras étendus, à main forte, en faisant des signes et des miracles. N'importe quelle âme qui se repent, qui se convertit à Dieu, c'est un miracle. Parce que naturellement, on fuit Dieu. Dieu a fait un miracle dans notre vie si nous nous sommes tournés vers lui. Et on voit qu'après, il leur a donné ce pays découlant de lait et de miel. De même, Dieu nous accorde la vie éternelle, nous accorde une vie nouvelle, nous donne tout ce qui contribue à la vie, à la piété, nous donne une vie en abondance. Voilà un petit peu tout ce qui est résumé dans cette fête de Shavuot, cette fête de Pentecôte. On peut venir à Dieu avec une offrande, puisque c'était particulièrement une fête où il y avait une offrande à apporter, mais une fête où on se souvient de tout ce que Dieu a fait pour nous. Dans Deutéronome chapitre 16 verset 10, il est écrit « Tu célébreras la fête des semaines » donc fête des semaines, c'est Pentecôte « en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. » Il est ajouté ceci « L'offrande volontaire que tu donneras de ta main sera proportionnelle aux bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. » Une offrande volontaire, c'est quelque chose que les gens faisaient volontairement, c'était pas quelque chose de forcé. Et c'est dans cet esprit qu'il y a quelque temps, on a cessé dans l'église de faire passer les paniers, et on a finalement mis simplement une boîte à offrande, afin que ce soit vraiment volontaire, que personne ne se sente forcé, lorsque le panier passe, de mettre une offrande dedans, mais que ce soit volontaire. Comme cela est écrit, c'est proportionnel aux bénédictions que l'Éternel donne. Il n'y a pas de normes qui soient données, chacun le fait volontairement. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça doit se faire avec joie. Et de même, dans ce texte de Deutéronome, il était écrit « Tu te réjouiras avec le Lévite, avec l'immigrant qui sera au milieu de toi. » C'est une fête joyeuse parce que le Seigneur donne et on est content de lui donner en retour. Et on peut le louer de tout ce qu'il fait de merveilleux dans nos vies. Une fête joyeuse. Dans Proverbe 3, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » L'Éternel nous demande de donner, mais lui nous donne en retour. Il nous donne en retour bien au-delà de ce qu'on pourrait penser. Ou imaginez. Donc une fête agricole, une fête, on pourrait dire, où il y avait une offrande à apporter, mais le deuxième aspect de cette fête de Shavuot, c'est que c'est une fête de l'Alliance. D'après la tradition juive, d'après la tradition rabbinique, Shavuot commémore le souvenir du don de la Torah, du don de la loi, des 10 commandements qui avaient été donnés, eh bien, 7 semaines après que le peuple d'Israël ait quitté le pays d'Égypte. Alors certains pensent qu'il n'y a pas de base réellement biblique pour dire cela. Personnellement, je trouve que ça tient tout à fait la route. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que la date convient très bien. Dans Exode 19, verset 1, il est dit que le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï, où il a reçu la loi, dans le 3e mois après sa sortie d'Égypte. Alors je vous ai dit, 7 semaines, 49 jours, c'était la durée après laquelle Pentecôte devait être fêté après Pâques. En Israël, on compte les mois de façon particulière. Tout mois entamé compte pour un mois. Donc c'est effectivement dans le 3e mois. C'est comme quand on dit que Jésus est ressuscité le 3e jour. En fait, il est mort le vendredi soir, et dès le dimanche, il était ressuscité. Alors quand on compte, ça fait pas 3 jours pleins. Mais le vendredi compte, ça fait un jour. Le samedi compte, ça fait un 2e jour. Et le dimanche où il est ressuscité, ça fait un 3e jour. Donc il en est de même. Dans ce cas-là, 49 jours, 7 semaines, ça marche. Mais surtout, je trouve qu'il y a une symétrie entre les fêtes qui nous sont décrites dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Par exemple, pour la fête de Pâques, Pessa. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament ? Mais c'est la délivrance du pays d'Égypte, la délivrance de la servitude que le peuple avait vécue au pays d'Égypte. Dans le Nouveau Testament, Pâques nous est décrit comme une fête de délivrance aussi de la servitude du péché, grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on a lu ce matin dans Acte 2 pour la fête de Pentecôte ? C'est le don du Saint-Esprit. On pourrait dire que c'est l'aboutissement de cette alliance nouvelle que Dieu a voulu conclure avec nous. Cette alliance nouvelle qui a été bien sûr amorcée par la mort et la résurrection de Jésus à Pâques, mais qui a été finalisée par ce don du Saint-Esprit, don par lequel, eh bien, Dieu écrit sa loi dans notre cœur. Comme nous l'avons lu dans Jérémie, lorsqu'il est écrit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. » Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est par l'Esprit Saint qu'on peut se tourner vers lui, c'est par son Saint-Esprit et par lui seul qu'on peut mettre en pratique la loi. Parce que justement, cette loi qui avait été donnée dans l'Ancien Testament, elle était là pour nous montrer qu'on ne pouvait pas l'accomplir parfaitement. Mais elle a été comme un précepteur pour nous amener à Jésus, pour qu'on puisse dire, Seigneur, je ne suis pas capable de l'accomplir. J'ai besoin de toi, je reconnais que je suis pécheur, parce que je ne peux pas l'accomplir. Donc de même que Pentecôte, ça a été le don du Saint-Esprit, lors de cette première Pentecôte de l'ère chrétienne, eh bien, je trouve tout à fait opportun de dire que, à l'époque de la sortie d'Égypte, eh bien, Pentecôte, ça a été ce don de cette loi qui est la première alliance que Dieu a conclue avec son peuple. On le voit d'une certaine manière dans 2 Corinthiens 3, au verset 6, lorsqu'il est dit « Que Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. » Non de la lettre, mais de l'esprit. Donc la première alliance était celle de la lettre, donc la loi donnée à Moïse, et la deuxième, celle de l'esprit. Donc on peut dire que cette fête de Pentecôte, cette fête de l'alliance ancienne puis nouvelle, ben finalement c'est une fête de la révélation de Dieu. Dieu a voulu se révéler à son peuple. Dans Exode 19, verset 9, il est écrit l'Éternel qui dit à Moïse, « Moi je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai. » Afin que le peuple entende. Je ne sais pas si on arrive à s'imaginer ce qui s'est passé. Le peuple était sorti d'Égypte, il arrive devant le mont Sinaï et tout le peuple va entendre de la bouche de Dieu la promulgation de la loi. Dieu qui parle à tous et tout le monde qui entend. Alors c'était terrible, hein. Exode 20 au verset 18 nous raconte comment ça s'est passé. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du cor et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. » Quand Dieu parle, quand Dieu se présente, c'est quelque chose de fantastique, mais aussi de terrible, d'impressionnant. Mais voici ce que Dieu dit après par la bouche de Moïse. « Soyez sans crainte. » Soyez sans crainte. Une apparition terrible parce que Dieu est saint, mais Dieu qui dit derrière « Soyez sans crainte. » Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. Le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or. Vous n'en ferez pas. » Dieu s'est montré de façon terrible pour qu'on ait de la crainte, du respect pour lui, pour qu'on mesure à quel point il est grand, à quel point il est saint. Mais il nous dit, « Sois sans crainte. » Et c'est lui qui est venu vers son peuple, c'est lui qui est descendu sur la montagne, afin de lui expliquer ce qu'il voulait pour son peuple, afin de lui dire ce qui est bien, et la loi c'est ça. Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit que le commandement est saint, juste et bon, c'est une loi parfaite qui a été donnée. C'était de bonnes choses que Dieu a voulu donner à son peuple. Il n'a pas voulu laisser son peuple dans l'ignorance, il s'est révélé à lui, quelle grâce. Un Dieu qui nous dit tout. Un Dieu qui veut nous parler. Un Dieu qui ne veut pas nous cacher les choses. Et de même qu'il avait donné la loi à l'époque, on a la Bible, la parole de Dieu complète aujourd'hui. Et en quelque sorte, en cette fête de Shavuot, cette fête de Pentecôte, voilà ce que nous fêtons, ce don de la parole de Dieu. Alors bien sûr, dans la Nouvelle Alliance, c'est le don du Saint-Esprit, mais C'est très proche de cela, puisque l'épée de l'esprit, nous dit Éphésiens 6, 17, c'est la parole de Dieu. Ce par quoi l'esprit agit, c'est par la parole de Dieu. Dans Jean 14, verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est Jésus qui parle et qui dit voilà, le but du Saint-Esprit, c'est d'enseigner, c'est de rappeler les paroles de Jésus, les paroles de Dieu. Et c'est ce Saint-Esprit qui vient donc inscrire cette loi dans notre cœur, parce que par nature, nous ne pouvons pas l'accomplir. Et on l'a lu dans Ézéchiel 36 ce matin, Dieu qui dit « Mais je ferai en sorte que vous suiviez et vous accomplissiez mes paroles, ma loi. » Parce qu'encore une fois, je le répète, on ne peut pas le faire. Par nous-mêmes, on a besoin d'être régénérés, d'être transformés. Et voilà ce que le Saint-Esprit est venu faire chez tous ceux qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, chez tous ceux qui se sont repentis et qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur, qui se sont dit « Je ne veux plus suivre mon propre cœur, mes propres pensées, mais je veux céder, plier les genoux devant Dieu et faire ce que lui me demande. » Parce que c'est le chemin de la vie, et quand Dieu nous donne des choses, ce sont de bonnes choses. Alors ça doit être aussi un encouragement pour nous à apprendre cette parole de Dieu, pour qu'elle soit réellement inscrite dans notre cœur. Dieu veut le faire, mais nous aussi on a notre part à faire, et on a un encouragement qui est donné, je crois, à cette fête de Pentecôte à apprendre. De même, cela avait été dit à l'époque de Moïse, dans Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Voilà, ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Les apprendre par cœur. Ça valait le coup, et c'était un ordre donné à l'époque, et combien ça fait du bien quand on est dans les transports, dans cette vie trépidante qu'on peut vivre aujourd'hui, de se souvenir de cette parole de Dieu, combien on peut trouver là des encouragements, de la force pour tenir ferme dans notre vie de tous les jours. Alors cette loi, on va rentrer plus dans les détails, quelle est-elle? Cette loi que Dieu veut que nous accomplissions, cette loi qu'il a donnée, d'une part, à Moïse et à tout le peuple, et d'autre part par le Saint-Esprit, à la première Pentecôte de l'ère chrétienne dont il nous a été fait le rapport dans Actes chapitre 2. Eh bien, c'est une loi d'amour, de même qu'il était dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu ». Une loi d'amour, et en cela, Shavuot, Pentecôte, c'est une fête de l'amour. C'est pas la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Des fois, je me demande si, même parmi les chrétiens, on ne connaît pas plus la Saint-Valentin comme fête de l'amour que Pentecôte, c'est quand même très dommage. Parce que qu'est-ce qui est écrit dans Romains 13 ? Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Shavuot, fête de l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Alors je disais au début que c'est aussi une fête multiethnique. Alors on va s'arrêter aussi là-dessus parce que c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. On l'a lu, mais alors qu'est-ce qui s'est passé dans Actes 2, lors de cette première fête célébrée par des chrétiens après la résurrection de Jésus? Eh bien donc tous ces juifs qui étaient disséminés parmi toutes les nations, eh bien venaient à Jérusalem, ils accomplissaient ce commandement qui était de venir trois fois par an, et Pentecôte, c'était une de ces occasions, ils devaient venir à Jérusalem pour célébrer cette fête. Ils venaient du monde entier, donc ils parlaient des langues différentes, les langues des nations auxquelles ils appartenaient. Ça fait un contraste très important avec une autre histoire, une vieille histoire, une très vieille histoire qui nous est racontée dans Genèse 11. Parce qu'on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il y avait ces langues différentes ? Eh bien, le pourquoi, il nous est raconté dans Genèse 11, à l'époque de la tour de Babel. Parce que, juste avant que les hommes bâtissent cette tour de Babel, il nous est dit dans Genèse 11, verset 1, que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Tout le monde parlait la même langue. Mais voilà que les hommes se sont dit à l'époque, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Voilà le projet de l'homme naturel, de l'homme qui finalement abandonne Dieu. On voit des hommes qui se réunissent pour construire une tour. Une tour dont le sommet va jusqu'au ciel, en gros pour aller jusqu'à la hauteur de Dieu. Les hommes cherchent à s'élever indépendamment de Dieu pour être finalement l'égal de Dieu. Pour se dire finalement on n'a pas besoin de Dieu. Et voilà le projet qui unit les hommes, qui unissait les hommes à l'époque, qui les unit encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont travailler ensemble et même travailler dur ? Parce que pour bâtir cette tour, il a fallu travailler très dur. Quand on construit un gratte-ciel aujourd'hui, c'est un travail très dur. D'ailleurs, il y a toujours des morts dans ce genre d'entreprise. Ils sont prêts à travailler dur, les hommes, très dur, pour s'affranchir de Dieu. Ils sont unis pour laisser Dieu de côté. Et Dieu, lorsqu'il voit ceci, voici ce qu'il dit. Il dit, voilà un seul peuple. Ah oui, voilà, un seul peuple. Ils étaient unis, ils formaient qu'un seul peuple pour faire ça. Voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Plus d'obstacles, vous vous rendez compte ? L'homme est prêt à surmonter tous les obstacles pour s'affranchir de Dieu, même si c'est dur, même si c'est difficile. Donc, c'est pas étonnant aujourd'hui de voir que ce qui réunit les hommes, c'est encore ce fait de trouver des moyens de laisser Dieu de côté. C'est pas étonnant de voir que les philosophies, les théories, même scientifiques aujourd'hui, prônent la mise à l'écart de Dieu. Et du coup, elles suscitent l'engouement de tous, parce que dès qu'on peut mettre Dieu de côté, alors là, on est content. Les hommes se réjouissent à ce niveau-là et vont chercher tous les moyens pour accréditer leur thèse dans ce domaine, même si c'est en dépit de tout bon sens. Mais Dieu nous dit, et la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc Dieu, à l'époque de cet épisode de la tour de Babel, est descendu, il a confondu le langage de tous ces gens afin qu'ils ne puissent plus bâtir la ville, et ils ont été donc, se sont regroupés par peuple, et les peuples à l'époque c'était ceux qui parlaient la même langue, et ils se sont répartis sur toute la surface de la terre. On voit que Dieu a eu le dernier mot, et Dieu aura encore le dernier mot aujourd'hui. La leçon à retenir donc, c'est que, de façon générale, les hommes se rassemblent autour de buts communs, autour d'idées communes, autour de cultures communes. Comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Et alors, qu'est-ce qui se passe à cette première Pentecôte de l'ère chrétienne ? Bien, les hommes de toutes les nations, de toutes les langues se rassemblent à Jérusalem. Et Dieu a donné aux apôtres, par le don du Saint-Esprit, de pouvoir s'exprimer dans toutes les langues de ces gens qui étaient venus là à Jérusalem. Et ils sont tous étonnés de les entendre parler dans leur propre langue. Un miracle extraordinaire. On pourrait dire que c'est un anti-Babel. À Babel, il y avait une seule langue, et puis après, toutes les langues, et plus personne ne se comprenait. Et maintenant, à la Pentecôte, il y avait plein de langues, et tout le monde va pouvoir se comprendre. Il va pouvoir comprendre quoi ? Le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile qui rassemble. Et il peut être dit et lu dans n'importe quelle langue. C'est extraordinaire. Là, on est en France, on a la Bible en français. Mais c'est le livre le plus traduit. On a vu ça lors de l'Expo Bible qui a eu lieu au mois de mars ici. Un livre traduit dans des centaines et des centaines de langues. Vous savez, pour le Coran par exemple, il ne peut être lu que en arabe. Ça ne marche qu'en arabe. La Bible, ça marche dans toutes les langues. quelque chose de merveilleux. Les langues, les diverses langues ne sont désormais donc plus un obstacle. Et l'unité, elle se fait non pas sur la base d'une culture commune, d'une langue commune, d'un pays commun, d'une nation commune, mais sur la base du message de l'Évangile, sur la base de la foi en Jésus, le Messie. Et quand je suis dans cette église à Ris-Orangis, je me réjouis parce que je me dis, mais voilà, on est rassemblés, on a toutes les couleurs, plein de pays d'origine, plein de langues, je sais que certains parlent diverses langues ici, mais on est rassemblés ensemble, non pas parce qu'on a la même culture, non pas parce qu'on parle la même langue, mais parce qu'on a la même foi en Jésus le Messie. Et c'est merveilleux de voir qu'on est allé jusqu'au bout de ce message de Pentecôte. Et c'est triste quelque part de voir certaines églises qui ne sont pas multiethniques, qui se rassemblent juste par communauté. Alors je sais bien que des fois il y a le barrage de la langue, mais quelque part c'est un échec. Parce que rester regroupé dans une même culture, dans une même nation, dans une même langue, ben c'est ce qui s'est passé après Babel. C'est finalement le résultat du péché, le résultat de l'orgueil humain. Au contraire, l'Église n'est pas là pour être la continuité du péché, mais pour être au contraire la preuve de la solution que Dieu a apportée au péché. Et en Jésus, on a une unité nouvelle. On a justement la possibilité que, entre gens de différentes cultures, de différents niveaux sociaux, on puisse se retrouver. Et c'est un beau miracle. La diversité, la différence, ce n'est pas une difficulté, mais une opportunité de montrer la puissance de Dieu. Amen. Galates 3, verset 26 nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus le Messie. » Tous fils de Dieu par la foi en Jésus le Messie. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. » Voilà, c'est fini les différences entre nations. « Il n'y a plus ni esclave ni libre, peu importe le niveau social. Il n'y a plus ni homme ni femme. » C'est pareil pour tout le monde. Mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ce qui fait l'unité, c'est Jésus-Christ, c'est l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Et je disais Pentecôte, une fête de l'amour, mais oui, à quoi est-ce que le monde va reconnaître que nous sommes des disciples de Jésus? Jean 13, 35 « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà ce à quoi nous sommes appelés, à nous aimer les uns les autres, et c'est ce à quoi le monde va reconnaître ce miracle de la Pentecôte, ce miracle de la foi en Jésus le Messie, qui est l'amour. Romains 5,5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Un des buts de la Pentecôte, de ce don de l'Esprit, c'est de répandre l'amour de Dieu et qu'on puisse manifester cet amour les uns pour les autres. Donc l'unité vient de l'amour et non pas de l'uniformité, quelque chose de très important. Donc ce qui caractérise les disciples, ce n'est pas qu'ils se ressemblent, ce n'est pas qu'ils viennent d'un même pays, qu'ils parlent une même langue, mais c'est qu'ils s'aiment. Voilà le signe caractéristique des disciples. L'amour pour Dieu, et non pas l'uniformité, de quelque sorte qu'elle soit. Pour conclure, je reviens juste sur Pessah, cette fête de Pâques dont on a parlé il y a donc 50 jours, il y a 7 semaines. On a fêté l'œuvre salvatrice de Dieu. C'est une fête de la délivrance, une fête de la victoire de Jésus sur le péché. Ben, Shavuot, on pourrait dire, c'est la terminaison de cette fête, puisque c'est la fête de la révélation de ce que Dieu a fait. C'est la fête du don de la parole de Dieu, du don de l'Esprit. C'est le fait de ce que Dieu veut nous accompagner en nous donnant sa parole au quotidien. Il ne nous laisse pas orphelins, mais il nous accompagne. Il nous a donné ce consolateur qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, pour nous accompagner chaque jour. Alors il veut avant tout qu'on lui donne notre vie, qu'on vive pour lui, qu'on ait des vies consacrées. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour tout ce que nous avons en toi. Nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous n'avons rien qui puisse te satisfaire. Nous sommes pécheurs par nature, et quand on regarde ce monde, on en voit vraiment le résultat. L'homme a beau vouloir faire les Nations Unies, et pourtant, elles se déchirent encore. L'homme a beau vouloir faire de bonnes choses, néanmoins, il y a de la discorde partout. Seigneur, il n'y a qu'en toi qu'il peut y avoir la paix, qu'il peut y avoir l'amour, qu'il peut y avoir la bénédiction, et nous voulons te remercier et te louer pour cela. Nous voulons te remercier pour ta parole encore. Nous voulons te demander que tu nous accordes le sérieux, la grâce de l'examiner chaque jour, de l'apprendre pour l'avoir dans notre cœur, parce qu'elle peut nous réjouir, parce qu'elle nous réjouit. Et nous voulons nous réjouir ensemble ce matin de ce que tu nous as réunis en toi, nous qui venons de peuples différents, de, qui parlions peut-être au départ des langues différentes, nous qui sommes de couleurs de peau différentes. Mais nous sommes un en toi, et c'est ce beau message que tu nous donnes à cette fête de Shavuot. Nous te louons, notre Dieu. Amen.